Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Merci de nous écouter, c'est l'heure du journal en français, donc voici d'abord les principaux titres. La mesure limitant l'espace de circulation des vélos, des motos et des tuk-tuk fait toujours parler d'elle. L'ONG locale Parsem dit que la mesure n'a pas tenu compte de la pauvreté de la population. Et puis c'est la désolation au sein du camp des réfugiés d'Onduta en Tanzanie. Ils pleurent encore la mort d'un des leurs tué par la police tanzanienne, c'était avant-hier à Mwanza. La même police demande des frais à la famille pour le transport du défunt jusqu'à chez lui. En France, un nouveau-né dans le système bancaire burundais, la Banque de financement et de développement pour les femmes BIDF, a été inaugurée aujourd'hui à Gitega. C'est avec un chiffre d'affaires de 10 milliards de francs burundais. Voilà pour le sommaire de ce journal. Nous sommes jeudi 3 mars 2022.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Usagers des vélos, motos et tuk-tuk comme moyen de transport dans la commune Mukaza de la municipalité de Bujumbura demandent la prolongation des délais pour le début de la limitation de l'espace de circulation. Cette demande a été faite l'après-midi de ce mercredi lors d'une réunion avec l'administrateur de Mukaza, Renova Sindaihebula. L'administrateur leur a répondu que la mesure doit être appliquée telle qu'elle a été annoncée par le ministre de l'Intérieur. Plus de détails avec Benny Atselakana.
Cette réunion a eu lieu dans les locaux du lycée Skeppers de Nyakabiga. Le représentant des distributeurs des cartes de recharge pour la téléphonie mobile, JB Telecom, qui était dans la salle, a indiqué que la prise de cette décision a été motivée plus par les raisons de sécurité routière, tout en oubliant le volet économique. Il a profité de cette occasion pour demander la prolongation du délai qui a été donné par le ministre.
Les motos sont nos outils de travail. Nous récoltons plus de 25 millions par jour provenant de cartes de recharge. Quand nous faisons le calcul, mensuellement, c'est plus de 4,5 milliards. Quand vous avez annoncé la mesure, j'ai été dans l'embarras jusqu'à penser de fuir le pays. Il n'y a pas 10 cas d'accident qui sont enregistrés dans nos agents qui se déplacent en moto. Donnez-nous au moins une année pour que nous puissions au moins payer une partie des dettes de la banque. Je ne vis pas de réponse. Transmettez mon message à son excellence. C'est bien que nous puissions nous y accommoder, mais des fois, ça devient impossible et l'on en meurt. Mettez-vous à notre place comme étant des fils de la nation et qui contribuent à son
développement. Un autre participant à la réunion a soulevé la question de survie des familles qui vivaient grâce aux revenus provenant des recettes des taxis motos, des tricycles et des taxis vélos. Selon ce participant, certains d'entre eux seront obligés de déménager pour s'accommoder à cette mesure.
Nous allons être confrontés à des abandons scolaires avant la fin de l'année parce qu'il y aura des familles qui seront obligées de déménager à cause de cette mesure parce qu'elles paient le loyer dans les recettes qui proviennent dans ces métiers. Ou bien encore, quand ils ne seront plus à la hauteur de payer les frais de scolarité de leurs enfants.
Dans sa réponse, l'administrateur de Mukaza l'a indiqué que celui qui pose cette question n'a pas bien compris cette mesure.
Dans la mesure du ministre, il n'est nulle part mentionné que les usagers doivent déménager. Vous devrez vous adapter comme quelqu'un qui va faire son travail plus loin. Cela veut dire faire son travail là où c'est permis et le soir conserver sa moto ou sa bicyclette et prendre le bus pour retourner à la maison.
Et de continuer en informant le public que si la sécurité routière est bonne, les investisseurs ne tarderont pas à amener de nouveaux bus.
Il y a des investisseurs qui hésitaient à se lancer dans le business des bus de transport en commun à cause des accidents. Vous verrez après la mise en application de cette mesure qu'il y aura des nouveaux bus de transport en commun parce que les propriétaires seront rassurés de la sécurité routière.
Par crainte des conditions difficiles de leur survie après la mise en application de cette mesure, l'administrateur de Mukaza les a tranquillisés qu'ils pourront abandonner leur métier pour aller cultiver les propriétés de leurs parents.
Personne ne mourra de faim parce qu'il ne conduit plus sa moto ou sa bicyclette. Avant de conduire ses engins, il possède une propriété de son père. Il pourra par exemple aller la cultiver pour avoir à manger.
La mise en application de cette nouvelle délimitation pour les motocyclettes, les vélos et les tricycles, dit tuk-tuk, est prévue pour le 11 mars courant.
Merci Benny Axel Akana. La mesure prise par le ministre de l'Intérieur limitant l'espace de circulation des motos tuk-tuk et vélos à mairie de Bujumbura n'a pas tenu compte du contexte de pauvreté du pays. Cela est le contenu d'une correspondance que l'ONG locale Parsem a adressée au ministre Gervendia Kobucha ce mercredi. Faustin Dikoumana, président de la Parsem, rappelle que cette mesure a été prise en violation de la loi burundaise qui garantit le droit de circulation. Suivez Faustin Dikoumana.
Le contexte dans lequel nous nous trouvons, de pauvreté indescriptible, où plus de 60% des Burundis vivent en dessous du seuil de pauvreté, un PIB par habitant de moins de 300 dollars par jour, avec un taux de possession de voitures ou d'automobiles par ménage très faible. Au niveau de la géopolitique, nous risquons même d'être confrontés dans les jours à venir à une pénurie de carburant ou bien une augmentation explosive du carburant. La relance économique dans laquelle le président nous demande de s'engager, comme du secteur privé, la petite et moyenne entreprise, les activités d'autopromotion, tous ces éléments jouent en faveur de la promotion de la petite et moyenne entreprise. L'insuffisance des bus de l'Otraco pour parier à la faiblesse, au défi des services du secteur privé pour desservir tous les codes de Bujumbura en matière de transport. La qualité et la qualité de ces bus sont insuffisantes. Vous voyez même les files d'attente au soir qui se multiplient. Aussi, la ville de Bujumbura a été déclarée la capitale économique. Au niveau des conséquences, on ne peut pas dire par exemple la mobilité des biens services et au niveau économique, c'est un élément fondamental dans la croissance économique. La mobilité des biens des services et ces instruments aident à l'approvisionnement des vivres en mairie de Bujumbura. Il y a le taux de salarisation aujourd'hui qui est faible, en dessous de 10%, même ceux qui perçoivent les salaires, par exemple un salaire qui ne permet pas de joindre les deux bouts du mois, ces activités. En plus, il y a des crédits qui ont été contactés pour acheter ces outils, il y a les taxes et impôts qui sont payés. Et j'imagine que, encore les habitants, de par la Constitution, le droit de circuler est un droit constitutionnel.
Au lieu de prendre une mesure qui enfonce le peuple burundais dans la pauvreté, la Parsem propose que la police renforce son travail en faisant respecter les règles de circulation routière. Encore une fois, suivez Faustin Dikoumana.
Et Parsem propose certaines solutions aux problèmes ici liés aux accidents. Il faut d'abord réduire les vitesses de circulation, sensibiliser les citadins, les habitants de la capitale qu'au-delà de 50 km par heure, on est en infraction parce que le code de la route impose une vitesse maximale de 50 km par heure. Éviter de conduire en état d'ivresse. Équiper les agents de la police en narcotest dans les caméras pour justement vérifier le niveau de vitesse utilisé. Améliorer l'état des routes, enlever les nœuds de poudre, c'est de les rendre beaucoup plus performantes. Surtout quand même, ils ont été aérés, ils ont été aérés à partir des constructions anarchiques qui étaient autour. Il y a aussi suivre le discipline de conduite à travers des fiches signalétiques informatives pour quand même des fois prendre des sanctions à l'encontre des conducteurs qui affichent beaucoup de cas de récidive en matière de provocation des accidents. Il y a la rigueur dans l'octroi des permis de conduire, la rigueur dans les contrôles techniques. Il faut que aussi les bus soient des bus vraiment en bon état et qui peuvent vraiment jouer cette mission. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'éléments à faire. Même si la devinette de constater que la ville de Bujumbura, il y a un mouvement comme capitale économique et une capitale politique justement pour permettre la décentralisation de certains services administratifs.
Toujours dans le domaine de l'économie, les femmes burundaises ont désormais une banque pour le financement de leurs projets. La Banque d'investissement et de développement des femmes a été inaugurée ce jeudi par le président de la République dans la province de Gitega. Les actionnaires de la BIDF sont l'État avec 15%, les communes 85%, soit 71 millions de nos francs chacune, totalisant ainsi 10 milliards de francs burundais de capital. Évariste Ndayishimiye a appelé les femmes à adhérer aux associations ou dans des coopératives pour bénéficier des financements de cette banque en vue de s'autofinancer dans des projets de développement économique. Suivez-le.
L'ouverture de cette banque pour le développement de la femme vient appuyer le programme de développement du pays qui a débuté depuis 2018 jusqu'à 2027. Notre programme est de traiter les femmes et les hommes au même pied d'égalité, sans aucune distinction. Nous aimerions que cette banque soutienne ces filles qui sont au chômage à réaliser leurs projets et à les aider à se promouvoir dans tout ce qu'elles projettent de faire en leur octroyant des crédits. Si le bénéfice de la population est de leur octroyer un crédit, vous qui travaillez dans cette banque avez intérêt à les soutenir dans la réalisation de leurs projets. Ne les sous-estimez pas. L'époque où on disait que les femmes n'ont aucun rapport dans la société est révolue. Nous encourageons ces femmes de s'unir en association et de créer des coopératives, et cela leur facilitera de recevoir des crédits. Je vous rappelle que c'est une banque unique, incomparable aux autres. Il est strictement interdit d'exclure une personne qui vient vers vous pour vous soumettre un projet. Il faut toujours encourager ceux qui ont des projets et les conseiller si nécessaire. Votre banque doit porter des fruits et créer de multiples branches dans différentes provinces du pays. Sachez que si vous ne réussissez pas à la développer, d'autres prendront la relève. Après 5 ans, si nous constatons que votre banque n'a pas évolué d'un pouce, nous engagerons d'autres qui seront en mesure de la rendre prospère. Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les personnes vaccinées? En l'état des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes. La contagiosité diminue également, mais ne disparaît pas totalement. Les gestes barrières, dont le port du masque, restent donc nécessaires même après la vaccination.
Ceci est un message de la radio Indamba, Agathe Kakaoué.
C'est la tristesse et la peine dans la famille de Jean Bosco Baraounda, un réfugié burundais du camp d'Onduta, a torturé à mort ce mardi à Mwanza par les agents de la police tanzanienne. 2 jours après, cette police refuse toujours d'assurer le transport du corps de la victime jusqu'à son domicile au camp des réfugiés d'Onduta. C'est au moment où la famille de la victime réclame son inhumation dans la dignité. Le point avec Vanessa Mouiteka.
À la morgue de l'hôpital de Mwanza, c'est là où le corps de Jean Bosco Baraounda vient de passer 2 jours depuis que cet homme ait succombé à la torture lui infligée par les agents de police tanzaniennes. Sa famille, qui se trouve sur place à Mwanza, se dit être déçue par l'attitude de la main police tanzanienne qui rejette la demande de la famille de la victime de collaborer dans le transport de son corps jusqu'au camp de Douta, en vue qu'il y soit enterré dans la dignité.
La famille de ce Baraounda Jean Bosco a été informée que la police de Mwanza n'a pas de carburant pour amener le corps au camp. Alors nous demandons au HCR de s'impliquer dans l'affaire et d'amener le corps et la famille qui se trouve jusqu'à maintenant à Mwanza dans le cas afin qu'il y ait l'enterrement du défunt.
Il faut rappeler que ce réfugié burundais tué à Mwanza était en route avec sa famille vers le Kenya à la recherche d'un autre pays d'asile. En Tanzanie, l'association de défense des droits humains ne cesse de dénoncer les mauvais traitements dont les réfugiés burundais sont victimes dans son pays.
Frédéric Lambinu, président de la coalition CFOR Arusha, dit que le gouvernement tanzanien devrait prendre la question à main. Il explique qu'un réfugié burundais vivant en Tanzanie a le droit de se déplacer vers un autre pays. Frédéric Lambinu la demande aux réfugiés de rester sereins. Écoutez-le.
Je crois que quand il y a un mort, on ne peut pas demander à la femme ou à ses enfants de cotiser pour qu'ils soient enterrés. D'abord, ce sont des réfugiés, ils n'ont pas d'argent. 2, le rôle de la police, c'est la sécurité publique. Et quand il y a un cadavre, l'enterrer, c'est aussi répondre aux soucis de la sécurité publique. Comment est-il possible qu'on procède de la manière? En tout cas, je demande aux Burundais de écrire officiellement, saisir le haut commissaire et raconter ce genre de fait. C'est un cadavre, mais tué par la police. Et c'est un cas, mais c'est un cas révélateur qui montre qu'il y a un problème de fond entre les réfugiés burundais et la police tanzanienne, l'autorité tanzanienne. On demande aux autorités tanzaniennes de faire cesser ces comportements envers les réfugiés. On n'en est pas réfugié, on le devient et on ne le désire pas. Ça se fait parce que il y a une mauvaise gestion politique dans le pays d'origine. Et on ne sait pas si la Tanzanie va rester stable, parce que des pays aussi stables peuvent être déstabilisés à un moment donné. C'est une expérience que nous vivons aujourd'hui. Autrement dit, nous demandons aux dirigeants de la Tanzanie de rester des humains et demander à la police de rester humaine et répondre aux sollicitations de nos Burundais réfugiés là-bas, parce qu'ils ne sont pas là parce qu'ils le désirent, ils sont là parce qu'il y a des raisons historiques de leur pays.
Et pour boucler ce journal, les Nations Unies ont organisé hier le vote sur une résolution relative aux attaques russes contre l'Ukraine. 141 pays membres ont voté pour, 5 ont voté contre et 35 se sont abstenus. Et parmi ces derniers figurent le Burundi. Comment expliquer cette position d'abstention du pouvoir burundais? Pour le professeur Gérard Bidani, politologue, il s'agit tout simplement d'un retour d'ascenseur en faveur de la Russie pour le soutien que ce pays a toujours montré au Burundi. C'est au moment où les autres pays avaient tourné le dos au gouvernement burundais en raison des graves violations des droits de l'homme.
Politiquement, le Burundi a soutenu la Russie. Et ce soutien, moi je l'inscris dans le cadre la politique du don tient dans les relations internationales, c'est le fait de donner, de recevoir et de rendre. Je vais essayer de m'expliquer par rapport à ces trois dimensions. Donner, la Russie a déjà soutenu le Burundi lors des différentes résolutions du Conseil de sécurité, lors des différentes résolutions du Comité des droits de l'homme, sur la question du troisième mandat, sur la question des crimes qui sont commettés au Burundi. La Russie a toujours voté contre toutes les résolutions. Donc, c'est un retour d'ascenseur qui est là. Deuxième chose, la Russie a soutenu le Burundi sur le plan économique. Au moment où l'Occident avait tourné le dos au Burundi, la Russie a continué à appuyer le Burundi. Je ne sais pas, en termes de volume de dons, qu'est-ce que la Russie a donné, mais quand même, il y avait un soutien qui a été manifeste tout au long de 5 ou 7 dernières années. Donc, du coup, l'abstention ici, c'est aussi un message que le Burundi donne à la Russie. Troisième chose, là, je suis au niveau de rendre, justement. C'est vrai, le Burundi a pris une position ambiguë, comme je l'ai dit au départ. Son vote est ambigu, l'abstention, c'est un vote ambigu. Mais en fait, c'est aussi par rapport à cette situation qui n'est pas facile à transcender quand on est diplomate ou quand on représente un État. C'est le fait que, d'une part, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de guerre que la Russie mène sur le sol ukrainien, puisque déjà le Burundi aussi, on a vu les communiqués de l'ambassade du Burundi en Russie sur les ressortissants burundais. Donc, on voit qu'il y a un danger pour même le Burundi qui vit en Ukraine. Donc, du coup, si je me mets dans la place du diplomate qui est là, il est dans une position inconfortable. Il ne peut pas voter contre cette résolution au moment où justement il y a d'autres choses qui sont déroulées en amont par rapport à ça. Mais l'abstention en question qui est là, le Burundi justement adopte une position, je dirais, de gêner le vote de la résolution en question.
C'était le professeur politologue Gérard Ibnanizé et c'est par sa voix que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée à tous. Au revoir.